Somme sur RVR dans l'émission mensuelle Bout de vie, animée par Maurice Chalaillet. Bout de vie qui reçoit aujourd'hui Gérard Boisneau, l'auteur du livre Récit de vie, Le berger des mésanges bleus, édité aux éditions Héraclite. On se retrouve 2 ans après, ici même, lorsque Gérard est venu présenter son parcours d'exploitant agricole, ayant pratiqué l'agriculture conventionnelle, la chimique selon lui, puis une agriculture plus respectueuse de la nature et de l'humain après son intoxication en traitant les pucerons sur le blé au D6. Bonjour Gérard.
Bonjour.
Le conférencier de 72 ans qui parcourt la France de long en large afin d'expliquer comment il a tourné le dos à l'agriculture conventionnelle va bien ?
Très très bien.
Voilà, donc heureux de vous retrouver pour venir parler un petit peu de ce beau livre qui vient de sortir. Alors, la crise sanitaire a stoppé net en mars 2020. Votre élan, expliquez-nous.
Eh bien oui, en mars 2020, comme je faisais des conférences dans toute la France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, eh bien, chaque fois que le téléphone sonnait, c'était pour une annulation. Je faisais environ 60 conférences par an à travers toute la France. Et d'un seul coup, à partir de février, eh bien, ça s'est arrêté brutalement. Ouais. Donc, j'avais du temps du coup, hein, puisque j'étais plus sur les routes. J'avais du temps et depuis longtemps, des gens comme Monsieur Chalaillet, Maurice, me disaient c'est quand que tu écris ton livre, c'est quand que tu mets noir sur blanc tout ton savoir. Eh bien, l'arrivée du Covid a fait que je me suis lancé dans l'écriture. Et en est né au mois de novembre de cette année Le berger des mésanges bleus, tout oui. Simplement.
Oui, bravo. Et rappelons-le, donc un opus quand même de 260 pages, c'est pas rien. Avec un titre évocateur, donc on l'a dit dans la présentation, Le berger des mésanges bleus. Que signifie-t-il ce titre ?
Alors, ce titre, il m'a été inspiré, il m'a été inspiré d'une journaliste de Var Matin. Un jour, j'étais à Draguignan en train de faire une conférence là-bas, et la journaliste de Var Matin, eh bien, elle a titré son papier « Les colibris de Draguignan ont reçu le berger des mésanges bleus ». Ah, moi, quand j'ai vu ce papier, quelque part, ça m'a fait chaud au cœur. Et je me suis dit, si tu écris un jour un livre, ça ne pourra être que ce titre-là. D'ailleurs, c'est une journaliste que je n'avais pas noté son nom, je n'avais rien noté. Donc, et là, je viens d'être réinvité pour le mois d'avril à retourner à Draguignan chez les Colibris. Et j'espère bien pouvoir la retrouver pour lui donner mon livre, parce que quand même, c'est elle qui est à l'origine de ce titre. Alors pourquoi ce titre aussi ?
Oui.
C'est parce que j'ai travaillé, quand j'ai décidé de devenir un exploitant agricole, au lieu d'arrêter d'être un exploitant agricole pour devenir un paysan, eh bien, je me suis mis à travailler au lieu de mettre des pesticides sur mes terrains, avec notamment les mésanges bleus, qui est un oiseau extraordinaire. Hein, j'ai découvert ça. Il est un oiseau extraordinaire. C'est un oiseau qui est capable de manger, ou de prélever plutôt. Hein, c'est le mot manger, c'est oui. Pas forcément. De prélever jusqu'à 12 500 insectes ravageurs par jour. Moi, quand j'ai appris ça, ça a changé complètement ma façon de voir les choses par rapport
aux pesticides. À ce que vous aviez appris ?
Avec ce que j'avais appris. Tout ça, je ne l'avais pas appris à l'école. Et voilà, ça a tout changé. Et je me suis mis à travailler, à en comprendre un peu mieux le phénomène, comment ces mésanges, on pouvait les faire se reproduire, parce que c'est un oiseau qui ne se reproduit pas en captivité, mais on peut lui donner, lui favoriser la vie pour qu'il puisse mieux se reproduire, qu'il puisse travailler plus facilement. On peut aussi lui aider à transhumer, hein, parce qu'une année, ben, ton champ, il est à un endroit, l'année d'après, il va être à un autre endroit où on sait qu'il va arriver des ravageurs. Donc, il faut que l'oiseau soit présent le bon jour au bon moment, si on veut que ça ne pullule pas. Certes, 12 500 insectes ravageurs par jour, c'est énorme, mais quand ça se met à pulluler, hein, sur du colza par exemple, on peut avoir 10 insectes ravageurs par plante, et là, il peut bien avoir tous les oiseaux du monde, ils ne pourront jamais y maîtriser. Mais par contre, s'ils sont là dès le début, eh bien, ils ne peuvent plus se reproduire parce que le prélèvement va être fait au fur et à mesure.
Alors, ce qu'on peut dire, bon, on l'avait expliqué déjà dans l'autre émission que vous pouvez d'ailleurs retrouver en podcast, mais c'était aussi le replantage de haies qui, par et à cause du remembrement, ont été supprimées dans les années... si je me trompe, dites-le-moi, mais
dans les
50,
années 60, hein, 60, voilà. Avec la loi d'orientation de 1963, 62-63, a fait que, eh bien, il y a eu beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelait des restructurations agricoles.
Peut-être hein, te dire pourquoi, en deux mots.
Disons que
agrandir les surfaces.
Eh ben, c'était l'agrandissement des surfaces. Globalement, c'est reparti du plan Marshall. Oui. Le plan Marshall, l'arrivée des tracteurs.
C'est ça.
L'arrivée des tracteurs, les haies devenaient gênantes. Hein? Donc à partir de ce moment-là, eh bien, les haies se sont mis à s'arracher et puis il fallait agrandir les parcelles, etc. etc. Donc voilà, on est déjà... À l'époque, on appelait de la modernisation agricole, alors qu'on était déjà dans l'industrialisation de l'agriculture.
Ça. Oui, parce que ce que vous ne précisez pas, c'est aussi on passait de l'attelage de vaches aux tracteurs, et les tracteurs, les engins de plus en plus gros et larges.
Et voilà.
Donc du coup, les petits chemins qui souvent étaient rudimentaires ne permettaient plus effectivement le passage de ces engins modernes.
À l'époque, dans les années 60, les tracteurs, quand on avait un 40 chevaux, il était déjà énorme. Mais aujourd'hui, on a des 200, plus de 200 chevaux qui sont gros comme une maison.
C'est ça.
Et ça, c'est vrai que les arbres, pour eux, il fallait les supprimer.
C'était gênant.
Alors que les haies, justement, les haies, comme vous disiez, les haies, c'est quelque chose de rentable. Alors que pendant longtemps, on nous a fait croire que les haies, ça prenait de la surface agricole et que ce n'était pas rentable. La haie, c'est extraordinaire. Dans la haie, vous avez des insectes auxiliaires, des oiseaux auxiliaires. Et grâce à la haie, vous n'avez plus besoin de traiter chimiquement. Ouais. Grâce à la haie, il va y avoir des protections parce que c'est des coupes-vents pour les bêtes qui sont... Voilà. C'est du bois... qui peut être du bois de chauffe, mais ça peut aussi être du bois d'œuvre. Ça peut être des fruitiers qui sont dans la haie. Donc, si on a une haie, vraiment une haie composite, j'ai envie de dire, eh bien, c'est rentable. C'est rentable à court terme, grâce aux insectes et aux oiseaux auxiliaires.
Qui vont abriter.
À l'abri des animaux qui sont dans les champs. C'est rentable à long terme, parce que quand l'arbre a 80 ans, ben c'est vrai qu'un arbre, sa vie, ça meurt, et qu'il faut le couper, et après ça repousse. Grosso modo, c'est rentable à long terme. Alors, pour les fruitiers, c'est au bout de 5 ans qu'ils deviennent rentables. Des noyers, des châtaigniers, qu'on peut avoir dans des haies. Donc, voilà. Donc, quand on nous dit que les haies, il faut les supprimer parce que ça prend de la surface, eh bien, c'est complètement faux.
Alors, ce qu'on peut rajouter, c'est que vous, bien avant qu'on réintroduise finalement l'idée de mettre des haies et qu'on les subventionne, il y a quelques années, vous l'avez fait quelques centaines de mètres, mais sur une longueur importante.
Oui, moi j'ai replanté 1,5 km de haies Alors que j'en avais peut-être détruit peut-être autant, je ne sais pas exactement, quand j'étais exploitant agricole, mais quand je suis devenu un paysan, eh bien j'ai replanté des haies.
Voilà.
Donc... Et pas n'importe quelle haie, j'appelle bien des haies composites. Alors, on peut dire en deux mots ce qu'est une haie composite, hein, mais vous pourrez y trouver dans mon livre.
C'est ça.
Hein, la haie composite,
très bien détaillé,
c'est
d'ailleurs.
Une haie à trois étages, hein, des arbres à grandes tiges, hein, comme je viens de l'expliquer, mais aussi en intermédiaire, eh bien, on a des arbustes à baies, hein, qui vont nourrir nos oiseaux pendant l'hiver. Voilà, et ça, c'est important de pouvoir dire tout ça.
Merci Gérard, on va passer une petite pause et on reprendra après. Je rappelle que nous sommes sur RVR dans l'émission Bout de vie qui reçoit donc aujourd'hui Gérard Boineau, l'auteur du récit de vie Le berger des mésanges bleus, paru aux éditions Héraclite. Alors Gérard, à la lecture de votre ouvrage, il n'y a aucun doute, vous avez trouvé un sens à donner à vos combats multiples contre cette agriculture chimique. Vous venez déjà de nous en donner un petit aperçu qu'on retrouve très très bien détaillé, expliqué dans votre livre. Cette agriculture donc qui a bien failli vous tuer, hein, disons-le aussi, et contre cette agriculture industrielle qui est mondialisée, on en a parlé un petit peu aussi avec ces haies qui ont été arrachées à un moment donné, qui non seulement tue, donc, avec l'emploi des pesticides, herbicides, fongicides, etc., mais qui insidieusement, et ça dans votre livre vous en parlez, vous nous l'expliquez, impose les OGM, et puis finalement cette vie moderne aussi qui nous a imposé aussi le nucléaire, contre lequel, bon, ben, c'est vrai, vous élevez aussi. C'est bien ça, Gérard,
C'est complètement ça.
Vos combats multiples.
La prise de conscience, à un moment donné, ben, ça a été l'accident chimique. Hein,
Quel âge, pouvez-vous le rappeler ?
J'avais 35 ans. J'avais 35 ans, en 1984. Et j'ai été empoisonné par un insecticide en traitant des pucerons sur mon blé. J'ai eu la chance d'avoir la vie sauve parce que j'étais parti à l'hôpital avec le bidon qui m'avait empoisonné et qu'ils ont pu faire le protocole pour me soigner en appelant le centre antipoison de Lyon sans attendre le résultat de la prise de sang.
Et vous faisiez un œdème de Quick.
Oui, je faisais un œdème de Quick. Donc je ne pouvais plus respirer, j'avais plus que 5 de tension quand je suis arrivé à l'hôpital, c'était assez catastrophique. Voilà, donc si j'avais été obligé d'attendre le résultat de la prise de sang, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc voilà, et à partir de là, je me suis aperçu que c'était les paysans les premières victimes de toute cette chimie. On ne nous avait jamais appris qu'une molécule pouvait traverser la peau. On nous disait certes, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer pendant que vous traitez. Oui. Mais c'était beaucoup plus insidieux que ça. Je ne dis pas que les consommateurs ne peuvent pas se faire empoisonner avec la chimie, mais ils sont beaucoup moins en contact direct avec la molécule. Hein, c'est toujours en indirect. Voilà.
Alors, donc, je peux revenir un petit peu en arrière en reprenant vos explications dans le livre, vous expliquez bien, et ça c'est intéressant pour nous aujourd'hui, donc vous dites bien dans l'adolescence, dès l'adolescence en fait, vous apprenez le métier hein, à l'école d'agriculture pendant 4 ans, dans la lignée des préceptes d'une agriculture productiviste, hein, c'est les années 60, et puis chimique par définition. Et puis surtout, bah, vous nous expliquez bien en toute honnêteté que vous employez en toute confiance les produits chimiques. Et puis autour de vous, personne, mais absolument personne, même pas les vendeurs, les enseignants à l'école d'agriculture, ne vous renseignent et ni ne vous enseignent la dangerosité des produits. Alors ici, bien entendu, pas question d'accuser qui que ce soit et quoi que ce soit, mais c'est de faire le constat et de comprendre justement vraiment comme vous le dites, vous avez employé les produits vraiment en toute innocence et à force, effectivement, ça a failli vous jouer un vilain tour.
Mais oui, parce qu'on nous disait, mais regarde, ces produits, ils sont là pour soigner la plante. Donc ça peut pas être mauvais pour l'homme du moment que c'est fait pour soigner. Hein? Alors que, on sait aujourd'hui, hein? Mais on le sait des fois longtemps. Oui, j'avais été empoisonné par le D6. Le D6 a été interdit.
De la société Bayer.
De la société Bayer. Le D6 a été interdit à partir des années 2000, 2002, un truc comme ça. Alors, il est encore permis sur certains produits, enfin certaines cultures, mais pas toutes. Hein, pour beaucoup, il est interdit.
C'est ça d'ailleurs qu'on comprend pas toujours nous, le grand public, qui est effectivement encore des, parce qu'on n'a pas trouvé d'alternatives.
Mais fille, bien sûr que si. Hein, les oiseaux sont bien des vraies alternatives.
Bien sûr.
Hein, voilà, et les insectes auxiliaires, hein, la chrysople. La coccinelle, les moustaquinaires, le trichogramme. Oui, on a plein d'insectes auxiliaires ou d'oiseaux auxiliaires qui existent, mais quelque part, ça rapporte rien à la chimie, ça rapporte rien aux transnationales, et que les lobbies sont présents et sont bien présents. Pour nous inciter à produire dans ce sens-là, alors que des solutions existent et elles existent vraiment.
D'ailleurs, dans le sens où ce que vous dites, on voit aujourd'hui finalement bien après ce que vous avez pratiqué finalement en étant très seul à la base, mais on voit aujourd'hui, par exemple, dans la viticulture, on voit des reportages où les gens se mettent à mettre des nichoirs. Ça, vous n'en avez pas parlé tout à l'heure, mais vous l'avez pratiqué aussi sur toutes les parcelles et de manière justement à réattirer ces oiseaux d'insectes.
Alors, faut dire que déjà, si on a une bonne haie, on n'a presque pas besoin de mettre de nichoir, parce que l'oiseau, il ne nous a pas attendu, il y a des millénaires qu'il vit, et il était capable de construire lui-même ses nids.
Ses nids.
Alors c'est vrai que quand vous mettez un nichoir, eh bien, c'est plus confortable pour lui, il va pouvoir mieux se reproduire, etc.
Précisons bien, ça j'ai noté dans votre livre, pour les mésanges bleues, c'est-à-dire pour les gens qui voudraient réattirer les mésanges chez eux, il y a un certain diamètre du trou.
Ah, absolument.
Ça, je l'ai bien noté.
La mésange bleue, c'est 27 mm. Le trou doit faire 27 mm. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait de support devant le trou.
Pourquoi ?
Parce que s'il y a un support, eh bien, il y a par exemple les pivers qui peuvent se mettre sur le support et il va détruire les œufs. Parce que c'est un ravageur de la mésange.
C'est-à-dire qu'il introduit sa tête pour venir
dans le trou, puisque le pivert il fait des trous dans les arbres. Eh bien, quand le trou il est fait, eh bien, c'est le pivert. Vous voyez, c'est cette conjonction, la mésange bleue ou charbonnière, elle a besoin, elle fait ses nids dans des cavités telles que des vieux arbres où il y a des cavités. Et le pivert va faire ses cavités.
D'accord.
Parce que le pivert, il sait que ces oiseaux vont venir derrière, pondre, et lui, il va pouvoir se nourrir.
Ça sera son garde-manger.
Ça sera son garde-manger. Donc, c'est pour ça que quand vous faites des nichoirs, il ne faut surtout pas qu'il y ait de support, parce que lui, il a besoin d'un support.
Ah ben oui, on aura appris
Donc, ça fait
le printemps prochain.
Voilà.
Bon, pour revenir sur cette partie un petit peu militante, si on peut dire, donc dans votre livre, on voit et on lit la liste impressionnante de vos mandats, tant associatifs, professionnels, municipaux, et même jusqu'à l'ONU. Gérard Boinon, donc, s'est mobilisé jusqu'à l'ONU, donc vous allez nous en dire deux mots, et donc ça témoigne bien quand même depuis toujours de votre désir de vous engager. Pourquoi tout ça ?
Ah ben, pour moi, la défense des paysans, Ben, ça passe par un engagement. Il ne s'agit pas de dire Yaka ou Faucon. Mmh. Quelque part, ben, il faut aller au charbon. Il faut aller au charbon. Donc, oui. Alors, c'est vrai que ça fait peut-être un peu pompeux de dire, Gérard Boinon, il est consultant au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève. Certes, ça peut faire, et c'est vrai que pour moi, le paysan qui naviguait dans les salons dorés du Palais des Nations, ça peut paraître complètement disproportionné.
Hors-sol, dirons-nous.
Hors-sol, oui, voilà, c'est ça, hors-sol.
En employant le mot.
Mais on sait qu'il se passe, dans ces instances-là, il se passe des choses assez extraordinaires. Et j'ai eu la chance. Alors, bien sûr, défendre les paysans du monde entier.
La conviction.
Hein, défendre les paysans du monde entier. Chaque fois que des paysans à travers le monde sont bafoués, sont violés dans leurs droits, eh bien, on était là pour les dénoncer à leur place. Bien entendu, ça, c'était notre rôle principal. Mais en même temps, j'ai eu la chance de participer à l'écriture de la Déclaration des droits des paysans, qui a été votée et bien votée en 2018, hein, le 17 décembre 2018, par l'Assemblée internationale de l'ONU, qui était réunie à New York. Elle a été bien votée, même si la France s'est abstenue, et ça, c'est mon grand regret. Hein, que la France, le pays qui se dit pays des droits de l'homme, n'ait pas voté la déclaration des droits des paysans. Un certain nombre de pays ne l'ont pas voté, certes, mais la majorité des pays l'ont voté, puisqu'il y a 122 pays qui l'ont voté, qui représentent 75% de la population mondiale. Alors c'est une déclaration, je dois dire que j'en suis relativement fier.
Ben vous pouvez.
Hein, parce que l'avoir menée jusqu'au bout et qu'aujourd'hui, elle peut rentrer en action, hein, et les paysans peuvent l'utiliser pour défendre leurs droits. Pour moi, ça fait partie des choses essentielles.
Voilà, et puis vous la retrouverez justement dans le livre de Gérard. Elle est notifiée, donc en encadré, et avec tous les détails. Et ça, c'est, je pense, pour ceux qui s'intéressent, ça sera une bonne chose. Donc on va à nouveau faire une petite pause et on reprendra donc pour revenir à des choses plus personnelles. Alors, je rappelle que nous sommes sur RVR dans l'émission Bout de vie qui reçoit en ce moment même Gérard Boinon, l'auteur du récit de vie Le berger des Bésanges bleus. Alors, Gérard, revenons, si vous le voulez bien, sur la première partie de votre récit de vie. Vous êtes né à Afou, pas très loin d'ici, donc au-dessus de Tarare, dans un pays de pentes et de cailloux. C'est pourquoi votre père n'aura de cesse de vouloir quitter son fermage pour le plat pays. De là, hein, c'est pas très loin, mais à l'époque, dans les années 60, c'était pas à côté. Quelle joie de l'annoncer à la famille le jour où il a enfin trouvé, allez, on va le dire, cette terre promise. Racontez-nous, c'est quand même un événement extraordinaire.
C'est vrai.
Dans votre vie.
Même s'il devait revenir comme simple ouvrier, puisqu'il a été, il a quitté, il était fermier à son compte, hein, à Afou, et il est revenu, il est venu à Saint-Trivier-sur-Moignan dans l'Ain, comme maître valet.
Qu'est-ce que ça voulait dire?
Un maître valet, c'était le responsable de tous les valets qu'il y avait sur la ferme, hein, avec un propriétaire qui était assureur sur la place de Lyon et qui n'y connaissait rien en agriculture. Mmh. Donc, mais qui était, c'était lui l'exploitant agricole, c'était le patron. Et malgré ça, ben, mon père, il a fait la démarche. Et je me rappellerai toujours, quand il avait visité cette ferme et puis qu'il est revenu à la maison, Il nous disait, mais là-bas, c'est plat comme la table. Voilà, ça c'est Vous voyez, j'avais 11 ans et je me rappelle encore cette phrase que mon père a prononcée. C'est plat comme la table.
Hein? Oui, parce que ce que Gérard vous dit pas, c'est que la ferme qui est exploitée à Fou, il y avait tellement de pentes que pour les monter avec le petit tracteur Farmal, c'est
ouais,
ça
avec du,
le Farmal du plan Marshall, eh bien, certaines fois, il fallait atteler les vaches.
Atteler les bœufs ou les vaches devant le tracteur parce que justement, il n'arrivait pas à remonter la pente. Oui, ça donc, c'est vrai que...
Donc, tout un symbole. Hein,
ouais,
tout un
ouais,
symbole.
Ça, c'est, sur alors, ce... quand on connaît les tracteurs d'aujourd'hui, on a, les gens ils disent « Mais ce que tu racontes, ce n'est pas possible. » Et pourtant, je l'ai vu de bien de mes yeux, tout ça.
Voilà. Hein donc, ça repose tout le questionnement du machinisme agricole,
oui.
Qui au départ, bon, c'est sûr que c'était une réelle transformation de passer à la mécanique,
oui.
Mais bon, effectivement, les engins qu'il y avait, c'était pas ceux d'aujourd'hui.
Absolument.
Et finalement, c'était plus pratique de faire dans ces pentes avec les vaches que peut-être le tracteur.
Ben, disons que c'était autre chose, voilà, ouais. C'était autre chose. C'est vrai que le tracteur était quand même pratique,
oui.
Parce que il y avait des choses. Mais on s'est aperçu aussi que le tracteur, ça a amené une augmentation du travail, parce que le tracteur. Ah. Il n'avait jamais besoin de se reposer, alors que les bœufs ou les vaches, eh bien, quand vous aviez travaillé pendant 2 heures, eh bien, il fallait laisser demi-heure au repos. Hein, et avec les bœufs, on ne pouvait jamais travailler la nuit, parce qu'il n'y avait pas de phare. Et aujourd'hui, avec les tracteurs, eh bien, les paysans, ils sont obligés, pour pouvoir amortir tout ce matériel, ils sont obligés de travailler de jour et de nuit. Hein. Ils ne comptent pas leurs heures, et ça, à un moment donné...
Il faut rembourser.
Voilà, il faut rembourser. C'est leur matériel Crédit Agricole.
C'est ça. Et par contre, ce qu'on peut peut-être préciser aussi, c'est que ce matériel, donc on l'a dit, qui est venu en masse grâce au plan Marshall, va être finalement le grand déclic de la modernisation future.
Alors, c'est vrai que le plan Marshall a été le déclic. Ça a été le déclic.
Donc, restituez-nous à peu près l'année.
Oh, c'est les années 50,
les
des années 50. Mmh. Hein, le plan Marshall, l'année exacte, mais bon, grosso modo, c'est les années 50, hein, où le plan Marshall est mis en place. Hein, c'était avec les surplus de la guerre, hein, les moteurs, les tracteurs, hein, vous savez. Et regardez encore aujourd'hui, c'est... McCormick, Massey Ferguson, John Deere, j'en passe et des meilleurs, hein, toutes ces marques-là et sont arrivées à partir de ce moment-là et sont là toujours aujourd'hui. Faut pas se leurrer, c'est vraiment les Américains, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient en faisant ça. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sous cette coupe de maintenant, c'est la mondialisation avec une réduction. J'ai vu encore là dernièrement qu'on perd un nombre de paysans.
100 000.
Ouais, on a perdu 100 000 là, en quelques années,
10
ans, en 10 ans là. 100 000 paysans, donc on se retrouve plus, aujourd'hui à 350 000 paysans actifs en France, alors qu'on a été, à la sortie de la guerre, tout le monde était paysan. Tout le monde était paysan, on était 30 millions d'habitants, il y avait 20 millions de paysans. Voilà, c'est
Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est, vous faites allusion au rapport qui vient de sortir et aux émissions de télé qui en ont beaucoup parlé. Ce qu'on peut relever quand même, c'est l'afflux massif de jeunes dans les écoles d'agriculture et où on relève que la présence d'enfants d'agriculteurs ou d'exploitants agricoles, selon comment on voit les choses, ne représente plus que 20% de ces jeunes dans les écoles. Ce qui veut dire qu'il y a un véritable désir de faire le métier. Bon, après, faudra voir, et on le voit déjà aujourd'hui, et ça, vous le suggérez dans votre livre, on parle aussi de véritables problèmes à l'installation.
Et absolument.
Et ça, c'est un problème pour le renouvellement des fermes.
C'est le gros problème, l'installation, parce qu'aujourd'hui, tous les élèves qui sont en maison d'agriculture aujourd'hui, combien ont accès à la terre
c'est
par
ça.
La suite? Eh bien, mis à part les fils d'agriculteurs qui ont globalement, eux, accès à la terre puisqu'ils vont pouvoir prendre la succession de leurs parents, et pas tous. Mais pour la quasi-majorité des jeunes qui voudraient faire paysan, ils n'ont pas accès à la terre. Hein, parce que, et c'est pas les paysans d'aujourd'hui qui ont des centaines d'hectares qui vont en laisser un hectare.
Au contraire, ils ont...
Au contraire, parce qu'aujourd'hui, la politique agricole commune, la PAC, la fameuse PAC, est faite à l'hectare. C'est-à-dire, plus tu as d'hectares, plus tu touches. Hein. Alors, ce qui est un vrai scandale pour moi, hein, et ça, je le dis jamais assez raison, fort, oui. C'est un vrai scandale que ça soit à l'hectare. Et, que c'est, et en plus de ça, c'est pas plafonné. Ouais. C'est-à-dire, grosso modo, en moyenne sur la France, et encore là, c'est pas juste, la moyenne sur la France, c'est 350 euros l'hectare que chaque paysan touche. Le gars qui a un hectare, ben, il va toucher une subvention de 350 euros. Celui qui a 100 hectares, il va toucher 35 000 euros. Celui qui a 1000 hectares bien va sûr. Coucher 350 000 euros par an. Et ça, c'est insupportable. Hein.
Donc
alors
encourage.
Que moi, je réclame une... Et avec notre syndicat, on réclame que les aides soient données à l'emploi. C'est-à-dire, plus il y a d'emplois sur une ferme, plus ils pourraient être touchés. Hein. Alors le curseur, où c'est qu'il faut le mettre, j'en sais rien. Hein, si, je sais un peu. Hein. Mais aujourd'hui, un emploi agricole pour un revenu décent, c'est avec les charges qui vont avec, c'est 40 000 euros. Eh bien, qu'on en donne 20 000 euros par ferme, ça serait limité à 20 000 euros. Il n'y aurait pas des gens qui auraient 300 000 euros. Vous voyez donc voilà, on peut y limiter. Et puis, que la majorité des aides... Hein, eh bien, d'une part, ça permettrait de diviser les hectares des fermes, puisque les gens n'y toucheraient pas, ils n'auraient plus intérêt à se battre.
Et, pour acquérir de la terre.
Et donc, ça recréerait du travail agricole.
La multiplicité.
Hein, des multiplicités, fermes. Etc. Donc, ça permettrait, en ayant moins grand, de faire meilleur, c'est-à-dire avec moins de chimie, etc. Parce que quand on fait avec moins de chimie, il y a besoin de plus de main-d'œuvre. Hein. Et puis, des aides un peu spécifiques pour la moyenne montagne, la montagne, les endroits un peu difficiles. Hein. C'est pas normal que quelqu'un qui est en montagne ne touche pas plus que quelqu'un qui est en plaine, etc. Donc, voilà. Et puis après, sur des aides environnementales, c'est-à-dire on pourrait, cet argent-là pourrait être donné à condition de planter des haies, à condition...
Par exemple. Ouais.
Hein, voilà, on peut imaginer plein de choses. Hein.
Alors, Gérard, vous l'avez compris, lorsqu'on se met à parler de l'aspect militantisme, il est là, il est encore là, bien qu'il n'ait plus de mandat. Hein,
ah si non, je, non, ouais, j'ai bien, arrêté vous êtes, ça.
Gérard est à la retraite, bien sûr, mais on l'aura compris. Donc, le syndicat cité, c'était la
Confédération paysanne.
On sent qu'il est toujours là et on le sait, hein, donc ses expertises sont toujours bien entendues par le monde rural et elles sont pleines de bon sens et on peut que lui dire Gérard, continuez. Bon, on va terminer quand même parce que ce livre, il n'y a pas que l'aspect militant, c'est une toute petite partie sur le livre, hein. Le reste c'est l'homme. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est vous avez eu donc dans votre enfance, la plus petite, on va dire, un personnage central, ce personnage qui vous a sûrement mis sur les rails du militantisme futur, on va dire. C'est qui dans votre famille, ce personnage ou cette personne?
Je crois que c'est la grand-mère maternelle. Qui était un personnage militant, hein, militant très fort, elle aussi, qui s'est toujours battue pour les droits, hein, quelque part. Elle a même été, suffragette. Elle a été.
Alors suffragette, peut-être deux mots. Rappeler que le droit des femmes, quoi.
C'était le droit des femmes, hein,
le droit de vote, le droit de vote, le droit de vote, au passage.
Hein, elle s'est retrouvée la première conseillère municipale. De son village dans le département du Rhône, à Saint-Romain-de-Popet. Voilà, donc... voilà. Et pour moi, elle m'a toujours défendue. Hein. Elle est décédée en 1980, mais bon, j'ai eu quand même le temps de la connaître beaucoup. Hein. J'avais plus de 40 ans quand elle est partie. Donc, on a vraiment, elle m'a toujours encouragé dans tout ce que je faisais, dans tout ce que j'étais.
Et puis surtout, peut-être, elle vous a appris, entre guillemets, à dire non aussi, à pas tout admettre et à être s'interroger.
Absolument. C'est-à-dire qu'elle me dit, de toute façon, on n'a pas de concession à faire. Mmh. On n'a pas de concession. À un moment donné, il faut affirmer.
C'est ça.
Il faut affirmer ce qui on est, comme on veut, hein, mais sans concession. Et tu te feras beaucoup plus respecter si tu ne fais pas de concession. On peut faire des compromis, on ne peut pas faire des compromissions. Mmh. Hein? C'était vraiment sa parole. Donc, voilà, j'ai essayé de suivre un peu cet exemple, à ma façon. J'arrivais pas à sa cheville, bien entendu, mais...
Ça, c'est vous qui dites.
Mais pour moi, ça a été vraiment un personnage... Combien de fois je l'ai vu se battre, entre guillemets, ou s'accrocher avec mes parents, et notamment avec mon père. Quand mon frère aîné, qui était étudiant en mai 68 sur les barricades à Paris, et mon père voulait absolument aller le chercher, elle a dit « Laissez-lui vivre sa vie, hein, il fait son expérience ». Et du coup, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Ouais. Voilà.
Enfin bon, un personnage de roman, quoi. Hein.
Je ne sais pas si c'est un personnage de roman, mais c'est un personnage haut en couleur.
Haut en couleur. Et puis alors, dans ces personnages, je pense que le grand-père maternel, toujours dans du côté maternel, alors lui aussi, je pense que gamin, vous avez dû bien vous moquer de lui, parce que il montait sur ses cerisiers avec des pantoufles, parce qu'il ne fallait pas abîmer les arbres, il fallait cueillir avec soin les cerises, etc., etc. Alors vous, dans votre famille, si j'ai bien compris, c'était pas le truc, quoi. Vous étiez déjà comme le père dans l'agriculture moderne. Et alors l'ironie de toute cette histoire, c'est finalement la boucle qui va se boucler, et le jour où vous allez découvrir ce fameux livre qui nous parle de ces oiseaux mangeurs d'insectes. Et qui va vous faire réfléchir, et finalement ce grand-père travaillait comme ça, et l'ironie de l'histoire, c'est que vous allez vous y mettre aussi. C'est quand même incroyable, cette histoire.
C'est surprenant, hein. C'est surprenant. La vie elle nous fait des tours comme ça.
Des tours et des détours.
Et oui, c'est vrai que quand j'ai retrouvé ce vieux livre du 19e siècle dans son grenier, hein, qui s'appelait « Les oiseaux entomophages », entomophage veut dire mangeur d'insectes, et qui était tout crayonné au crayon à papier, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de stabilo. Hein. Je vois que mon livre, tu l'as tout souligné.
C'est ça, avec des post-it, aujourd'hui, on en pense qu'il y a des post-it.
Avec des post-it et des stabilos. Il a des choses stabilisées en jaune, là, sur le livre. Donc, voilà. Donc, lui, il avait un crayon à papier, et avec le crayon à papier, il était tout annoté, son livre. Hein, et c'est là que j'ai découvert beaucoup de choses, et que je me suis inspiré de ce livre pour faire mes recherches après personnelles, différentes, parce que là, entre le 19e siècle et le 20e siècle, nous avons vécu, où j'ai fait cette transformation, et le 21e est encore en train d'évoluer encore plus rapidement. C'est évident. Et, hein, j'ai été amené à travailler, à refaire des recherches, etc., sur ces merveilleux oiseaux qui sont les mésanges bleus. Mais ça ne veut pas dire que les mésanges charbonnières ne sont pas bonnes. Hein. Elles sont un tout petit peu plus fainéantes, puisqu'elles ne font, elles, que 8000 prélèvements par jour. Le rouge-gorge, qui est un petit paresseux, qui fait 5000 prélèvements par jour. Mais moi, quand j'ai appris ça, ça a changé mon paradigme. Hein, j'ai changé de vision.
Donc, paradigme, la grille de lecture.
Hein, la grille de lecture
des choses de la vie.
Et à partir de là, eh bien, on a tout. La nature nous donne tout. Hein, il suffit simplement de savoir la regarder, l'écouter. Mmh. Hein, la terre me parle, quelque part. Mmh. Hein, et je crois que je le mets dans, dans le livre. Hein, j'explique un peu sur la fin, en conclusion, comment la terre me parle.
Sauf qu'à 10 ans, c'est vrai, quand le grand-père fait ça, on a d'autres choses en vue et ces choses-là, on ne les entend pas forcément.
Mais bien sûr, on commençait déjà à voir arriver les tracteurs et qu'on n'avait qu'une envie, c'était monter sur ces tracteurs.
Oui.
Hein, c'était, on devenait
bien
un grand, voilà, on devenait quelqu'un. C'est vrai que moi, dès l'âge de 12-13 ans, eh bien, je me suis mis à conduire des tracteurs.
Bien sûr. Hein,
même si on n'avait pas le droit.
Comme ça se passe toujours aujourd'hui,
comme
hein,
ça
les agriculteurs, on les voit.
Parce que le matériel est... Et disons que c'est envoûtant quelque part,
bien sûr.
Matériel qui marche tout seul, qui voilà, et que pour un enfant c'est extraordinaire, hein, ça se regarde. Et
bien
puis
sûr.
En plus de ça, faut pas oublier qu'à l'époque, chaque fois qu'on mettait un engrais supplémentaire, on faisait un rendement supplémentaire.
Bien sûr.
Chaque fois qu'on mettait un pesticide supplémentaire, on faisait un rendement supplémentaire. Donc, on était persuadé que cette agriculture, que j'appelle aujourd'hui, j'aime pas l'appeler conventionnelle, parce que le mot conventionnel, pour moi, il est volé. Ce qui est fait conventionnellement depuis des millénaires, c'est pas cette agriculture chimique et industrielle. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire clairement qu'on a fait une agriculture chimique et industrielle. Hein, et ça...
Et qu'on continue de la faire.
Et qu'on continue de la faire. Et moi, à l'époque, dans les années 60-70, j'étais persuadé que c'était cette agriculture-là qui allait sauver
faire.
La faim dans le monde.
Tout
et
à
on
fait
s'aperçoit
aussi.
Qu'aujourd'hui, eh bien, c'est pas du tout dans ce sens-là que ça se conduit. Aujourd'hui, ça sera une agriculture respectueuse de l'environnement, hein, qui respecte la terre, qui respecte les sols, hein, qui, parce qu'on a perdu en 70 ans de cette agriculture, on a perdu entre 20 et 25 centimètres, même en Dombes, hein, où j'habite, entre 20 et 25 centimètres de terre arable, par l'érosion.
Ah
oui. Hein, et on le voit très bien, il suffit d'aller en bordure d'un bois, et bien vous montez toujours dans le bois. Aujourd'hui, entre la terre cultivée et le bois, et bien y a un dénivelé qui varie entre 20 et 60 centimètres suivant les lieux. Hein. Donc ça, c'est de la terre qui a été perdue. Partie en érosion.
Hein.
Et donc, alors je ne parle pas dans le Bourjolais où il y a de la pente en plus. Et d'ailleurs, les paysans, notamment dans le vignoble, aujourd'hui, vous voyez de plus en plus des terrains, des vignobles qui sont enherbés pour tenir la terre.
C'est ça.
Hein, parce que le labour et tout ça font que ça. Voilà. Donc,
bon,
ça je rentre dans.
on va remercier Gérard Boineau, donc, parce que. Si on continuait, on pourrait l'écouter encore toute la journée parce que c'est quelqu'un de convaincant, qui a une histoire de vie absolument très très intéressante. Quelqu'un qui, faut le dire, a su mettre ses pas dans ceux des anciens. Belle leçon de vie en tout cas, et on peut encourager nos auditeurs à acheter le Berger des Mésanges Bleus, et puis surtout à le lire, il se lit très facilement, c'est très très agréable, et vous apprendrez plein de choses, voilà. Merci Gérard.
Merci.
Alors donc, pour finir, donc, c'est bientôt Noël, et des idées de cadeaux de livres, en plus de celui de Gérard Boineau, donc on vous conseille l'Almanach du Beaujolais 2022, on a présenté le 2021, l'année dernière, qui est paru aux éditions Héraclite. Jean-Marie Vianney, une histoire du curé d'Ars, donc c'est une BD de Marie Garnier et Ludovic Posas, qui est paru aux éditions Poutan Jeunesse, qui est très très intéressante. Regarde ça bouge, une petite BD qui s'adresse aux enfants, de Lucie Albon, aux éditions Poutan Jeunesse. Un livre où le mouvement des pages change la perception d'une image, c'est très pédagogique, c'est tout un monde qui prend vie en tournant les pages. Un autre livre pour finir, donc un roman qui vient de sortir, donc pour un titre et de la soie, qui est un roman historique de la Lamurienne Nathalie Biou, qui est paru aux éditions Sidney Laurent. Voilà, donc que des idées lectures selon les âges et des idées cadeaux pour mettre au pied du sapin. Alors, prochain bout de vie de janvier, donc ce sera, là on va revenir un petit peu sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, avec Jacqui Nardou, qui viendra nous présenter donc son ouvrage « Un trio infernal de la collaboration et de la répression, procès de trois condamnés à mort », où on parlera surtout de l'incendie du château de Tarare, au plus fort de la guerre, et on expliquera pourquoi, comment, et surtout le pire qui a été évité à Tarare ce jour-là. Voilà, merci à tous, passez de bonnes fêtes, et en janvier.